La main verte, avec Promesse de fleurs. Créez le jardin et le potager qui vous ressemblent sur promesse-de-fleurs.com.
Avec vous Alain Baraton, bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Le jardinier de Versailles. Et gros plan ce matin sur Adrien Sénéclauze. On peut dire qu'il est inconnu de la quasi-totalité de nos auditeurs.
Hein. Et oui, un constat, il est bien difficile de se faire un nom dans l'horticulture. D'où mon envie de vous parler aujourd'hui d'une personne que j'estime d'exception.
Adrien Sénéclauze.
Eh bien oui, il est né en 1802 à Bourg-Argental, c'est dans la Loire. Ses parents se sont installés 10 ans plus tôt dans cette commune, alors de 1300 habitants, et ont créé une petite usine qui traite le fil de soie. Sixième d'une famille de 12 enfants, le jeune Adrien n'a pas envie de reprendre l'entreprise familiale, sa passion est pour le végétal. Il aime les plantes et commence une collection. Il a tout juste 17 ans.
Et quelques années plus tard, Adrien Sénéclauze joint l'utile à l'agréable.
Il crée une pépinière où il propose les plantes les plus rares. Pour vous donner une idée de ce qu'il a trouvé un peu partout et qu'il a ensuite mis en culture, il suffit de consulter l'inventaire de ses biens après sa mort, le 25 juin 1871. C'est un court extrait, bien évidemment. 300 variétés de conifères, 120 variétés d'orangeries, 215 variétés de pivoines en arbre, 500 d'azalées et 300 de rhododendrons, 150 à 200 000 pieds d'arbres fruitiers de tout genre. C'est considérable.
Et c'est aussi à Adrien Sénéclauze que l'on doit la présence dans nos parcs d'un des plus beaux conifères.
Le cèdre de l'Atlas. Eh oui, quand il apprend qu'un explorateur a découvert en Afrique du Nord les peuplements de cet arbre alors totalement inconnu en Europe, il s'empresse d'en obtenir un exemplaire. En 1839, il parvient à en multiplier un grand nombre et les jeunes plants s'adaptent si admirablement à notre climat que le service des eaux et forêts de l'époque utilisera dès 1860 ce conifère pour regarnir les forêts proches de la Méditerranée. Quand vous vous promenez, Eric, dans le sud de la France, dans des forêts proches donc de la Méditerranée, comme je vous le disais, et que
avec
vous voyez
des cèdres de l'Atlas,
eh bien, ayez une petite pensée pour Adrien Sénéclauze, c'est lui. Et c'est grâce à lui qu'il y en a.
Et d'ailleurs, qui est devenu sa pépinière?
Bien, elle existe toujours. Depuis 1999, Dominique Croix, qui, je la cite, ne respire qu'à travers sa pépinière, exerce avec son mari le plus beau, mais vraiment le plus beau des métiers. Elle invente des fleurs, elle est rosiériste.
Alain Baraton, vos réponses et vos conseils à présent aux auditrices et auditeurs de France Inter. Janine, j'ai pris l'habitude, dit Janine, de laisser mes dahlias en terre. Or, je viens de lire que dans ce cas, les dahlias vieillissent mal. Est-ce que c'est vrai?
Eh bien, c'est vrai, pour deux raisons principales. La première, en arrachant le dahlia avant les gelées hivernales, on lui évite de souffrir et la plante peut donc se mettre dans des conditions confortables de dormance. Quand on laisse des dahlias en pleine terre, ils risquent au début du printemps de subir les gelées printanières. Mmh. Et là encore, la plante va souffrir. Donc, on est dans une plante qui est constituée de réserves que sont les tubercules et qui va souffrir à l'automne et au printemps. Ce n'est pas très bon pour le reste de l'année. Mais quand on sait qu'en plus, la présence sous terre des réserves de la plante attire les mulots et quantité de bestioles qui viennent s'en délecter, oui, il faudrait être fou pour laisser les dahlias en pleine terre, sauf si on habite dans les régions les plus douces de notre pays, ou sauf si on a la main verte et vraiment très très verte.
Christian voudrait vous parler de son arbre Calistémon, dit aussi rince-bouteille, c'est bien ça?
Oui, parce qu'il fleurit rouge et on dirait vraiment un égoupillon. C'est très curieux, c'est une plante originaire du continent, je crois, australien.
Alors, ce Calistémon de Christian mesure 2,50 m, le diamètre c'est identique. Et je voudrais le tailler, est-ce possible et si oui, à quel moment?
Quand je dis continent australien, bien entendu, je veux parler de l'Océanie, l'Australie n'étant pas un continent. Oui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Quoique, je vois votre expression dubitative.
On va vérifier ça tout de suite.
Voilà. Le Calistémon est une plante que l'on taille généralement légèrement, qui est très jolie. C'est un arbuste qui peut atteindre 2 à 3 mètres de hauteur et que généralement on se limite à tailler l'extrémité des branches pour que le feuillage reste compact. Il est parfois possible de le rabattre sévèrement. C'est possible, mais je n'aime pas.
Vous n'aimez pas ça. Sophie a arraché une haie de pyracanthas pour créer une haie variée avec des arbres fruitiers. Mais malheureusement, dit-elle, rien ne pousse. Est-ce que c'est dû à la proximité avec les deux grands arbres de mes voisins qui fait végéter tout ce qui est planté?
Sophie, si vous m'écoutez de grâce, avant de prendre une décision brutale dans un jardin concernant un abattage, un arrachage, se demander toujours si l'on ne commet pas une erreur. Si les pyracanthas étaient de bonne dimension, pourquoi les avoir arrachés? Peut-être aurait-il fallu les rabattre, dans ce cas-là c'est possible, et les conserver. Le problème c'est qu'on plante des haies, une haie de piracanta. On plante à côté des arbres qui sont chez le voisin, si j'ai bien compris. Les arbres se développent, le piracanta aussi. Quand on arrache la haie, les arbres, eux, ont pris une certaine dimension. Ils font de l'ombre. Pire, les racines vont consommer l'eau dans le sol et rendre difficile le développement des végétaux qu'on a plantés. Donc, en tenant compte du manque d'eau dans le sol, en tenant compte des problèmes de compactage des terres, en tenant compte du manque de lumière, effectivement, ce n'est pas évident d'avoir une haie sous l'ombrage de grands végétaux. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il fallait peut-être réfléchir avant d'arracher les piracantas.
Là, il y a encore une auditrice qui se fait gronder. Non, je le dis,
j'aime beaucoup le prénom de Sophie et je ne veux pas brûlatiser. Je suis juré d'être aimable avec tous les auditeurs maintenant.
Marie, ça fait deux ans.
Je ne veux peut-être pas non plus respecter ma parole très longtemps.
Deux ans que Marie échoue dans la culture des courgettes et des courges dans son potager. Dès que le légume apparaît, la croissance s'arrête, la plante se flétrit. Mais pourquoi donc, vous demande Marie?
Oui, je pourrais être odieux avec Marie, rappeler que j'avais ici même.
Vous allez être sympa avec les auditrices.
Oui, hein. Non, mais ça, non, c'est
cours de.
Ah, je suis une teigne. Non, il y a un problème avec la courgette, c'est le problème de la pollinisation de la fleur. Il faut, pour qu'il y ait des fruits, qu'il y ait pollinisation. Il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. J'y reviendrai, c'est un peu compliqué tout ça. Et quand la plante n'est pas en mesure de produire des fruits, donc des graines, elle a tendance à dépérir. Et peut-être même, on parle souvent du stress des végétaux. Et la plante se dit, à quoi bon vivre si je ne peux pas assurer une descendance? Les fruits n'arrivent pas à maturité. La plante en souffre et elle-même décide d'arrêter de vivre. Je dirais pas qu'elle se suicide, n'exagérons pas. Mais il est vrai que quand des plantes ne sont pas en mesure de se reproduire, elles préfèrent mettre un terme
à... C'est une réaction drôlement intelligente.
Mais oui, mais tout à fait.
Allez, un dernier conseil pour le week-end.
Allez, un petit commentaire aussi. Atlas de botanique parfumée, c'est un merveilleux ouvrage, vraiment que j'ai aimé profondément, de Jean-Claude Héléna, avec des illustrations de Karine Doering-Froger. Tout simplement, c'est une des planches merveilleuses sur les plantes, sur les parfums. C'est publié chez Artaud, c'est 25€, je donne le prix, je sais, ça ne se fait pas.
Non.
Une très très belle idée de cadeau. Et puis, j'avais prévu demain une chronique, je vais la changer, parce que ce matin, en venant ici même, j'ai croisé des renards, et je me suis dit, tiens, quel est le rapport entre un jardinier et un renard? Et bien demain, vous avez l'explication.
Est-ce qu'il y a des renards à Versailles, par exemple?
Des renards à Versailles, des renards magnifiques. Et je vais vous dire pourquoi il faut absolument qu'ils puissent vivre tranquilles.
Allez, un dernier mot pour vous rappeler que l'Australie est bien un continent et que l'Océanie n'est pas un continent stricto sensu.
C'est ce que je disais.
Merci Alain Baraton, il est 8h10.